c'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. La France s'est ressaisie.
Parmi les 450 tableaux vendus à Nice en 1942, une vingtaine seulement a été localisée dans les collections de musées français, étrangers, mais aussi chez des collectionneurs privés. En 2012, deux œuvres d'Armand d'Orville sont retrouvées en Allemagne, chez le fils d'Hildebrandt Gurlitt, l'un des principaux trafiquants d'œuvres d'art spoliées aux Juifs pendant la guerre. Un autre tableau, passé chez Gurlitt, est localisé chez un collectionneur privé. Comment les tableaux du grand-oncle de Francine se sont-ils retrouvés dans sa collection ? La famille de Francine peut-elle aujourd'hui en demander la restitution ? L'affaire des 450 tableaux, épisode 3.
Donc je sais qu'il y a des tableaux qui ont été retrouvés en Allemagne. Ça, bien sûr, on parle des tableaux qui ont été retrouvés chez Gurlitt. Cette affaire, elle a fait du bruit en 2012. Bon, pour moi, à ce moment-là, Gurlitt, oui, bon, d'accord, tiens, il y a des tableaux qui sont trouvés dans son appartement. Je n'étais pas encore immergée, loin de là, dans ce qui nous intéresse aujourd'hui.
Vous savez qui c'était, Cornelis Gurlitt ?
Non, non. Moi, pour moi, bon, Gurlitt, un Allemand, j'ai dû entendre dans l'anecdote raconter que c'était son père qui était un grand collectionneur, qui avait beaucoup collectionné et recherché des œuvres pour Hitler. Il semblerait qu'il avait des origines juives, à moitié ou au quart. Bon, et paradoxalement, il a quand même pu collaborer avec Hitler et donc mener sa vie, si j'ose dire. Et donc, Gurlitt, oui, on a retrouvé dans son appartement des tableaux. Pour moi, ça s'arrêtait là. Et puis, quand toute cette affaire a commencé en 2016, j'ai notamment appris que certains tableaux de la collection Armand d'Orville faisaient partie de ce qui avait été retrouvé dans cet appartement.
Incroyable.
Oui, assez incroyable, parce que, bon, quel itinéraire, quel chemin, j'en sais absolument rien. C'est assez perturbant.
L'affaire Gurlitt, c'est lors de l'année 2012. Emmanuel Polak, historienne de l'art. Lorsqu'éclate, l'hebdomadaire Focus, la nouvelle de la découverte de 1235 œuvres d'art retrouvées dans un appartement de Cornelis Gurlitt, qui est le fils d'Hildebrand Gurlitt, un des marchands d'Hitler, et 1235 œuvres retrouvées dans un appartement de la banlieue de Munich à Schwabing, qu'on appelle le trésor de Schwabing.
Cornelius Gurlitt, немецкий пенсионер.
Giant collection of paint.
Looted by the Nazis.
1 milliard d'euros.
Un immeuble chic à Munich. Personne n'avait le droit d'entrer dans l'appartement du fils du collectionneur. La police a découvert 1500 toiles emballées, dont des Picasso, Chagall, Matisse.
Nearly $1 billion worth of art.
Aus welchem Grund waren Sie in der Schweiz?
Ich habe Geld geholt.
Woher haben Sie diese Kunstgegenstände?
Ich habe sie von meinem Vater.
On m'a demandé de travailler sur les œuvres qui étaient d'origine française. Et très vite, je travaille sur un portrait de femme de Jean-Louis Forain, qui est vraiment très joli. Il est or, il a une finesse tout à fait particulière. Et le chercheur de provenance regarde l'œuvre dans son intégralité, c'est-à-dire que très vite, on demande à avoir la photo du revers. Parce que dans un premier temps, compte tenu du budget, enfin, on se déplace pas pour aller voir les œuvres. Elles sont dans un entrepôt secret à Munich et c'est assez difficile d'avoir un vrai rapport avec l'œuvre.
Pourquoi un entrepôt secret ?
Alors, parce qu'il y a 1235 œuvres parmi celles-ci, des Matisse, un faux Chagall, mais on le saura plus tard, des œuvres de Jean-Louis Forain, des Manet, des Monet, des sculptures de Rodin. Enfin, c'est le trésor de Gurlitt, le trésor de Schwabing. Donc, en fait, on a dans un premier temps, lorsqu'on commence nos recherches, accès à la photographie de l'œuvre et, ce qui est très important, accès au verso de l'œuvre. Et là, sur le verso, pour ce portrait de femme de Jean-Louis Forain, ce qui est assez extraordinaire, c'est que j'ai une étiquette qui mentionne la vente d'un amateur parisien qui est réalisé à Nice les 24, 25, 26 et 27 juin 1942 dans le hall du Savoie à Nice. Donc dans ces cas-là, c'est assez simple, il s'agit de se rendre à Nice et de commencer à mener l'enquête. Je vais dans différentes bibliothèques municipales jusqu'à ce que je tombe sur la bibliothèque municipale Romain Gary et pour laquelle je pose mes questions et je recherche et j'essaye de savoir s'il existe un catalogue de vente de cette vente du 24, 25, 26, 27 juin 1942. Et là, on me montre non pas un catalogue, mais deux catalogues. Alors ça, c'est assez extraordinaire, puisque j'ai un premier catalogue de mise en liste des 450 œuvres qui passeront en vente lors de ces ventes aux enchères. Et j'ai également un catalogue où sont présentées les photographies. Et donc, quand j'ouvre très vite le catalogue des photographies, que je feuillette, eh bien, je retrouve la photo de l'œuvre sur laquelle je suis en train de mener l'enquête. Donc ça, c'est absolument formidable, puisque là, je me dis, eh bien là, je tiens un jalon de provenance et je sais que cette œuvre est passée en vente lors du, non pas du 24, mais du 25 juin 1942.
Comment des tableaux vendus à Nice en 42 se sont-ils retrouvés dans la collection Gurlitt ?
Alors là, vous touchez au cœur du métier de chercheur de provenance. C'est-à-dire qu'on retrouve des œuvres. On retrouve des œuvres en Allemagne à partir de 2012. Moi, j'y travaille à partir de 2014. Mais je vais remonter la filière de propriété. Alors, je trouve un jalon en 1942. 24, 25, 26, 27 juin 1942. Et je dois travailler, enquêter sur ce qui va séparer 2014 à 1942. Et donc, en trouvant ce catalogue de vente de 42, j'ai une indication. Elle se trouvait dans la collection de la succession d'Armand Isaac d'Orville, première chose. Et par la suite, je sais qu'elles ont été achetées par des intermédiaires qui auront très peu de difficultés à exporter les œuvres vers l'Allemagne, vers un très très grand marchand d'œuvres d'art qui est la personne d'Hildebrand Gurlitt, le père de Cornelius Gurlitt. En tant qu'historienne de l'art, ce qui m'importe, c'est de faire un rapport et c'est de travailler et de mentionner. Ce que je souhaitais, c'est de faire parvenir au sein de la Task Force Gurlitt les deux catalogues de vente que j'avais trouvés à Nice et également le procès-verbal de la vente.
Emmanuel Polak multiplie les occasions de faire parler de l'affaire d'Armand d'Orville. L'histoire aurait pu s'arrêter là si elle n'avait pas rencontré Antoine Tchikpa et Antoine Delabre, les généalogistes.
À l'occasion de notre réflexion sur les œuvres d'art spoliées, Antoine m'a proposé de l'accompagner à une conférence sur les œuvres d'art spoliées, dans laquelle intervenait Emmanuel Polak, qui présentait ses travaux universitaires en expliquant pourquoi la famille d'Orville avait été spoliée, qu'il en était des œuvres d'art spoliées.
Nous nous sommes aperçus que ce dossier était emblématique et nous avons été très frappés, stupéfaits même, de constater que tout le monde connaissait l'existence de ce dossier, tout le monde connaissait l'existence de cette question. Il était très très probable à l'époque que des héritiers existaient et personne finalement ne faisait rien d'autre que d'en parler. Emmanuel Polak avait soulevé le problème, bien sûr, mais son travail c'est la généalogie des œuvres d'art, le nôtre c'est la généalogie successoral, et nous avons conjugué nos compétences pour la première fois, sans doute, pour parvenir à un résultat. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Réparation et mémoire. Je crois que c'est ça qui est très, très, très important.
Il y a 3 ans, l'Allemagne dévoile à Bonn les tableaux soupçonnés d'avoir été spoliés aux Juifs par Hildebrand Gurlitt. L'exposition a pour ambition de retrouver les descendants des propriétaires de ces tableaux. Parmi eux, il y a les 3 de la collection d'Armand d'Orville. Francine ne pouvait pas rater ce rendez-vous.
J'ai ce catalogue c'est même pas un catalogue, hein, c'est un très très beau livre qui représente l'ensemble des œuvres qui ont été trouvées chez Gurlitt. Enfin, ça représente celles qui ont été exposées à Bonn. Donc, ceux qui étaient exposés à Bonn avaient des origines incertaines, enfin, des propriétaires incertains. Donc, ce livre, il est exceptionnel. Il représente tout ce que j'ai pu voir puisque j'ai été à Bonn. C'était sidérant de voir cette exposition. Toutes ces œuvres, elles venaient de chez des particuliers. Donc, elles n'auraient jamais dû se côtoyer. Elles ont été pillées, volées, spoliées, on peut utiliser tous les mots qu'on veut, et regroupées dans cette exposition. Ces œuvres, elles avaient toute une histoire. Elles avaient appartenu à des gens qui avaient probablement été déportés. Et leur bien avait été volé. Donc, c'était pas une exposition lambda, c'était pas une exposition de peinture. Elles ont toute une histoire dramatique. Chacune représente une famille, un salon, une salle à manger, était accrochée à un mur. Quelqu'un les regardait tous les jours parce que cette personne aimait les arts et était collectionneur.
Et alors, vous arrivez à l'exposition. À quel moment vous tombez sur les tableaux qui vous concernent, comme vous dites ? Rappelez-vous.
Pas tout de suite. Il a fallu que je me promène beaucoup avant d'arriver devant.
Quel effet ça vous a fait, du coup, de les voir ? Décrivez-nous un peu ces tableaux.
Donc, il y a déjà un profil de femme, Profile of a Lady, donc, qui aurait été peint par Forain en 1881. Donc ça, c'est une femme très digne, en costume, mais costume citadin. Très fière, très droite, avec un très beau chapeau, parce que je pense qu'à l'époque, bien entendu, les femmes sortaient couvertes, chapeautées. Le deuxième que j'ai vu, donc, il est complètement différent. C'est ça qui est un peu frappant par rapport, sans que j'y connaisse absolument en art. C'est également un dessin de Forain. C'est une femme que je qualifierais un petit peu stylisée. Ses traits ne sont pas du tout précis et l'accent est mis sur sa robe. Je crois que ça s'appelle Lady in White. Ben oui, la dame en blanc. Et l'autre est un dessin de Guise qui représente une Amazone. Et il est très beau parce que le cheval, enfin à mon sens, c'est le mouvement qui est représenté, c'est la ruade en quelque sorte du cheval avec cette femme en Amazone, donc qui donne une grande légèreté en quelque sorte à ce dessin. Il devrait pas être là, ces tableaux. Il devrait être ailleurs. Il devrait être resté en France, il devrait être resté dans la famille au sens très large du terme. Il n'aurait jamais dû naviguer comme ils l'ont fait. Donc là, il y a de la frustration, de l'amertume. Et je me rappelle surtout qu'il y avait, sur les cartels, un hiatus entre 1945 et 1953. Il était retracé, alors, un petit peu ce qui est marqué dans le livre, donc qui avait acheté en 1942 les tableaux. Après, il y avait, je me rappelle très bien, 1945, Raphaël Gérard. Enfin, apparemment, c'est un personnage un peu douteux. Et puis ensuite, il y avait 1953, Gurlitt. Donc Gurlitt, père. Le conservateur du musée m'a expliqué que tant qu'on ne saurait pas ce qu'il était advenu de ses œuvres entre 1945 et 1953, il ne pourrait pas les restituer. Pas lui, le conservateur, puisque c'était un musée éphémère. Pour 2 mois, pour 3 mois, l'exposition des œuvres trouvées. Mais il, au sens large du terme, ne pourrait pas restituer les œuvres. Ben, je prends que presque comme une fin de non-recevoir. J'ai ressenti que pour lui, c'était une façon de dire vous savez, moi, dans tout ça, j'y suis pour rien. Et sous-entendu, c'est mon interprétation. Moi, si je pouvais, je vous les rendrais. Je ne suis pas partie à Bonn en me disant que j'allais repartir avec les tableaux sous le bras. C'est assez certain.
Francine et sa famille ont fait parvenir à l'Allemagne une demande de restitution de ces trois tableaux.
Alors effectivement, le cabinet de généalogiste, c'est eux qui sont, que nous avons mandatés pour défendre nos intérêts. Je dirais que c'est l'expression exacte. Ils ont contacté l'ensemble des ayants droit d'Armand d'Orville. Effectivement, c'est eux qui agissent pour demander la restitution des œuvres.
Si ces œuvres ont été achetées, nous devons démontrer qu'elles l'ont été par des ventes forcées. Et à ce titre, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider à la réparation et à la restitution de ces œuvres.
Compte tenu de l'aspect historique de ce dossier et du contexte particulier de ce dossier, c'est pas un business. Notre seul objectif n'est pas de gagner de l'argent, c'est d'œuvrer à cette réparation et à contribuer, même modestement, à faire œuvre de justice.
L'Allemagne n'est pas la seule concernée par ces demandes de restitution. Certains musées français conservent eux aussi des tableaux ayant appartenu à Armand d'Orville et achetés à la vente de 1942.
Donc je sais qu'il y a des tableaux dans un certain nombre de musées. Au musée d'Orsay, il y a au Louvre un dessin attribué à Delacroix, une lionne absolument superbe. J'ai vu sa reproduction couleur, elle est absolument superbe. Et il y a, en tous les cas, un tableau de Fantin-Latour au Met à New York. Des tableaux clairement identifiés comme ayant appartenu à la collection Armand d'Orville et qui figurent aussi sur le procès-verbal de la vente.
Je trouve ça particulièrement choquant. Et je dois dire que lors des réunions que nous avons eues, le sentiment que tous les prétextes juridiques ou pas seraient utilisés pour contrecarrer la restitution, nous l'avons très vite compris.
Il ne devrait pas être là, ces tableaux.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.